Bien. Donc je voudrais introduire Hervé. Donc Hervé est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Il a été directeur scientifique de Saint-Gobain. Il a été professeur associé à l'ESPCI. C'est un scientifique qui a beaucoup travaillé dans le domaine des matériaux, évidemment dans le verre aussi. Et donc il va vous parler un peu plus du lien entre procédé et propriété, sur le verre toujours, puisque ces deux sessions sont dévolues au verre. Donc Hervé, je te laisse la parole. On prendra ensuite, pour ceux qui veulent, quelques questions, où vous viendrez discuter avec nous. On sera là présent quelques minutes après le séminaire. Merci.
Merci beaucoup Didier. Bonjour à tous. En fait, je vais vous raconter deux histoires d'innovation dans le domaine verrier, deux histoires qui sont très marquées par l'invention de procédés nouveaux, deux histoires qui ne se ressemblent pas du tout, puisque dans un cas, il s'agira d'application des verres dans le domaine du bâtiment, dans l'autre, dans le domaine des télécommunications. Et deux histoires qui ne se ressemblent pas du tout non plus sur la façon dont l'innovation s'est faite. Vous verrez que dans un des cas, on a affaire à une innovation vraiment en continu, sans événement très marquant, alors que dans l'autre cas, il y a des personnages marquants qui ont imprimé l'histoire. Mais ces deux histoires se rejoignent sur un point, c'est qu'on va voir comment, au cours de la dernière moitié du XXe siècle, eh bien, d'une certaine façon, l'industrie, l'innovation, l'industrie verrière ont échappé aux verriers traditionnels parce que des procédés nouveaux sont venus s'imposer. Alors, je vais commencer par le premier de ces sujets qui concerne les couches minces sur les vitrages. On va voir ce que ça veut dire, mais je commence par cette publicité que j'aime beaucoup, qui représente le premier vitrage à couches de Saint-Gobain. Je le dis tout de suite, une couche, c'est un matériau différent du verre qui est déposé en épaisseur très mince sur la surface. Et ce vitrage est un vitrage d'isolation thermique, c'est-à-dire que grâce à ce vitrage, la chaleur ne s'échappe pas des bâtiments en hiver. Et on voit que le marketing, la publicité, c'est un exercice de haute volée et qu'on peut admirer puisqu'on peut repérer dans cette vue des deux enfants confortablement installés à l'intérieur de la pièce. Eh bien, on a le reflet des arbres et ces arbres sont sans feuilles, on est bien en hiver et la situation est confortable. Alors, le problème à résoudre était le suivant. Comment éviter, dans les pays froids, la déperdition de chaleur par les fenêtres? On voit par cette image infrarouge que d'un bâtiment, eh bien, si on ne l'isole pas convenablement, la chaleur s'échappe. On peut isoler les murs en utilisant, par exemple, de la laine de verre ou un autre isolant thermique, mais le problème des vitrages est plus compliqué à résoudre. C'est un enjeu très important puisque 40% de l'énergie est consommée dans le bâtiment et que sur ces 40%, on a une vingtaine de pourcents, en gros, 20 ou 30% qui est utilisé pour le chauffage. Donc si on peut économiser, si on peut éviter ces déperditions de chaleur, on peut considérer que presque 10% de l'énergie globale consommée sur Terre peut être économisée. Je rappelle qu'il y a trois modes de propagation de chaleur, qui sont la conduction, la convection et le rayonnement, et que, dans un premier temps, les verriers ont commencé à lutter contre la convection en inventant le double vitrage, qui évite la formation de courroies de convection à travers le vitrage. Et puis, contre la conduction, on utilise des gaz lourds du type argon, krypton, qui sont à l'intérieur du double vitrage et qui présentent une conductivité thermique moins élevée. Reste donc le rayonnement. Alors, comment se présente le verre en ce qui concerne le rayonnement? On a ici deux courbes, celle, la première qui donne la radiation solaire sur la Terre, donc l'énergie reçue par radiation à partir du Soleil, et puis la deuxième qui représente le rayonnement du corps noir. Ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir, c'est finalement ce rayonnement infrarouge qui est émis quand un objet est à une certaine température. Ici, à 20 degrés, et on voit que ce rayonnement du corps noir culmine à 10 microns environ de longueur d'onde de la lumière. En face de ça, on a les propriétés optiques du verre tout à fait standard, et on prend conscience du fait que si le verre avait été inventé pour laisser passer la lumière du soleil, on n'aurait pas fait mieux. Il laisse passer à la fois le visible, et c'est cette propriété-là, évidemment, qu'on a utilisée en premier, mais également le rayonnement solaire du proche infrarouge. Et par contre, dans le domaine de l'infrarouge qu'on appelle thermique, au-delà de 5 microns environ, cet infrarouge qui a tendance à s'échapper par les fenêtres de l'habitat, eh bien la transmittance est tombée à zéro et on obtient la réflectivité est également très basse, ce qui signifie en fait que le verre absorbe. Il absorbe, mais il re-rayonne évidemment vers l'extérieur. Et c'est cet effet-là qu'il s'agit de supprimer. Et la solution pour le supprimer qui a été inventée, ça a été de déposer sur le verre une couche mince d'un matériau qui soit transparent dans le visible, pour garder la fonction première de la fenêtre, évidemment, mais qui réfléchit l'infrarouge, et en particulier l'infrarouge thermique. Donc les couches dont je parle sont des couches de matériaux différents du verre, d'une épaisseur qui peut aller, suivant les applications, de 1 à 500 nanomètres. On peut se l'imaginer comme une couche de confiture sur une tartine qui ferait 1 km d'épaisseur. On est dans le domaine des dimensions nanométriques. Alors pour faire ça, il est vite apparu que deux catégories de matériaux pouvaient fonctionner. La première, qui sont les oxydes semi-conducteurs très dopés, en particulier l'oxyde d'étain dopé à l'indium. Je n'ai malheureusement pas le temps d'expliquer pourquoi des semi-conducteurs, et en particulier des oxydes, possèdent cette propriété, mais ils répondent exactement au cahier des charges, c'est-à-dire qu'ils transmettent la lumière du visible. Ils ne transmettent pas dans l'infrarouge, par contre, dans l'infrarouge, ils réfléchissent la lumière, c'est exactement ce qu'on leur demande pour cette application. Mais on peut également penser à une deuxième catégorie de matériaux qui sont les métaux en fine épaisseur. Un métal, basiquement, ça réfléchit la lumière. Mais un métal en couche très mince, et on peut l'observer par exemple sur les miroirs sans tin sont des miroirs dont la couche d'argent qui sert à réfléchir la lumière est plus mince que pour un miroir normal. Et en dessous d'une certaine épaisseur, qui s'appelle l'épaisseur de peau, eh bien, le métal va commencer à transmettre la lumière. Cette épaisseur est de l'ordre de 20 nanomètres, d'où les échelles de dimension que j'ai déjà évoquées. Et on peut, dans ces conditions, et en plus, cette transmission varie avec la fréquence, c'est-à-dire avec la longueur d'onde de la lumière. Et on prend conscience de ce fait que si le métal massif réfléchit complètement la lumière et donc n'en transmet pas du tout, eh bien, sur des épaisseurs de l'ordre de 10, 20 nanomètres, la lumière visible va être en partie transmise, alors que la lumière infrarouge, elle, va être complètement réfléchie. Et on va pouvoir tirer profit de ce phénomène. Alors, il en est découlé, après une longue histoire sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir sur tous les détails, la conception d'un vitrage d'isolation thermique. On utilise traditionnellement l'argent. L'argent est le plus indiqué parce que c'est le métal le plus conducteur, donc celui qui réfléchit le mieux le rayonnement infrarouge. Et partant d'une feuille de verre qui est basiquement qui transmet la lumière avec un peu de réflexion sur chacune des faces, eh bien, en superposant des couches, dont cette couche d'argent, on inverse les courbes. La réflexion, en particulier dans l'infrarouge, devient importante. Et en jouant sur un effet d'optique qui s'appelle l'effet Fabry-Perot, qui est une espèce de résonance optique, eh bien on est capable de garder cette réflexion dans l'infrarouge tout en commençant à obtenir une transmission importante dans le visible. Et c'est évidemment ce qu'on va rechercher dans cette application. Mais vous voyez que le prix à payer, c'est une complexité importante parce qu'il va falloir déposer sur le verre des couches successives d'épaisseurs très fines de matériaux différents, des diélectriques comme l'oxyde de zinc, une couche d'argent, l'oxyde de zinc, une deuxième couche d'argent et à nouveau une couche d'oxyde de zinc. Si bien qu'une vue au microscope électronique est représentée sur ce cliché où on voit les deux couches d'argent conformément à la représentation précédente d'une épaisseur qui est de l'ordre de 10 nanomètres prise en sandwich entre ces couches d'isolant, de diélectrique qui sont l'oxyde de zinc, avec des couches supplémentaires sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir en ce qui concerne leur fonction. Donc, on a cherché à fabriquer un produit sophistiqué, reposant sur beaucoup de science, parce qu'on est dans le domaine nanométrique, parce qu'on va chercher, on le voit sur cette figure, à aligner les plans cristallographiques de l'oxyde de zinc et de l'oxyde de l'argent pour obtenir des propriétés meilleures. Compliqué à fabriquer, mais qui finalement s'est imposé, et qui s'est imposé en particulier face aux oxydes semi-conducteurs qui, eux, étaient a priori beaucoup plus simples puisqu'une seule couche suffisait à remplir la fonction. Et on va comprendre maintenant pourquoi. Mais pour ça, il faut que je parle des procédés. Je vais parler de deux procédés de dépôt de couche mince. Il en existe deux multiples, mais deux sont particulièrement importants dans le contexte d'aujourd'hui. Le premier, c'est le dépôt en phase vapeur. C'est un procédé chimique où, sur la ligne flotte que vient de présenter Didier, on tire profit du fait que la température du verre est élevée encore à la sortie de ce bain flotte et on va provoquer des réactions chimiques entre des molécules gazeuses qui s'appellent des précurseurs et qui viennent réagir avec la surface du verre et qui forment un dépôt solide. Un exemple, si on cherche à déposer de l'oxyde d'étain pour former cette couche d'oxyde d'étain de PA-l'indium dont j'ai montré tout à l'heure qu'elle avait les bonnes propriétés, eh bien, on va la faire réagir du chlorure d'étain sous forme gazeuse avec de l'eau sous forme gazeuse et va se déposer à la surface cette couche solide d'oxyde d'étain. Ce procédé est très facile à mettre en œuvre dans le contexte d'une ligne de fabrication de verre plat par le procédé flotte, puisque on a le procédé flotte ici, et à la sortie de ce bain d'étain, eh bien, le verre est encore à une température de 600 degrés et on peut amener ici une installation qui va permettre de débiter les gaz, les bons gaz, le chlorure d'étain en l'occurrence, et l'oxygène, avoir un flux gazeux qui vient lécher la surface du verre, réagir et former cette couche. Donc un procédé très simple à mettre en œuvre dans le contexte de la ligne flotte. Le deuxième procédé dont je souhaite parler, c'est la pulvérisation cathodique. Alors lui, par opposition au précédent, c'est un procédé physique qui ne fait pas appel à la chimie, sous vide. On a besoin de faire le vide pour obtenir ce dépôt, et dans lequel le principe est illustré ici. À l'intérieur d'une chambre à vide, on crée un plasma. Un plasma, c'est l'état excité d'un gaz qui est réalisé quand on applique un champ électrique suffisamment intense à un gaz comme de l'argon. Et si ce plasma est créé entre une anode et une cathode, eh bien sur la cathode, les ions argon plus du plasma vont être accélérés, vont venir percuter violemment en ayant accumulé beaucoup d'énergie cinétique la cathode. Là, ils vont se livrer à une partie de billard avec les atomes de cette cathode. Et si la cathode, par exemple, c'est de l'argent, eh bien, des atomes d'argent vont être expulsés et vont venir se déposer sur le substrat qui est disposé en face. Donc le matériau cible éjecte les atomes de surface qui se dirigent vers le substrat et s'y déposent. Je passe sur les détails. Il a fallu évidemment adopter ce procédé à une situation en continu dans laquelle on a des feuilles de verre qui défilent et sur lesquels viennent, grâce à un procédé qui s'appelle le sputtering planaire et plus tard le sputtering magnéton, eh bien, permettre en continu de déposer la couche sur une surface de verre qui est située ici, dans cet exemple, au-dessus de l'installation. Et on aboutit ainsi, puisque je vous le rappelle, dans le cas de la couche d'argent, on souhaite déposer plusieurs couches de nature différente, eh bien, on a plusieurs stations dans lesquelles le vide est réalisé, qui sont composées de cibles de nature physique différente, l'oxyde d'étain, oxyde de zinc, argent, oxyde de zinc, argent, etc. Et vous voyez l'installation qui est vraiment impressionnante, puisqu'on a affaire à des lignes d'une centaine de mètres environ, dont une grande partie est sous vide dynamique. Donc, a priori, si on cherche à comparer ces deux procédés, on a des avantages et des inconvénients pour les deux. La déposition vapeur, c'est simple, c'est facile sur la ligne flotte, ça se passe à pression atmosphérique, en face de quoi le sputtering est beaucoup plus complexe, est fait en reprise, parce qu'il n'y a nulle part sur une ligne de fabrication de verre plat par procédé flotte où installer cette installation, elle est vraiment beaucoup trop grande, sous vide. L'une est chimique, l'autre est physique. Mais à l'avantage du sputtering, eh bien, on peut réaliser plus facilement des empilements de couches. C'est impossible en dépôt par phase vapeur, parce que quand on dépose une couche, le verre se refroidit et donc il n'a plus les calories nécessaires pour apporté à une éventuelle réaction chimique qui constituerait un deuxième dépôt. Et la CVD a l'inconvénient d'être peu flexible. Peu flexible parce que, en grande partie, devant s'installer sur une ligne qui sert déjà à autre chose. On conçoit, on comprend que ce qui, sur le papier et dans l'histoire, pouvait apparaître comme un avantage pour le dépôt en phase vapeur, eh bien, devient un peu un inconvénient parce qu'on va avoir tendance, avec des procédés tellement différents, la fabrication du verre d'une part, le dépôt par sputtering d'autre part, à séparer les choses plutôt qu'à apporter les deux complexités sur la même ligne. Donc, on va avoir un procédé de sputtering qui est plus flexible parce que finalement, on va construire des usines qui seront conçues seulement pour lui. Psychologiquement, il y a eu dans l'histoire un effet très important parce que ce procédé, il a tout d'un procédé verrier. Il vient s'installer sur une ligne de fabrication de verre, il fait appel à de la chimie inorganique que les verriers comprenaient bien. Il fonctionnait à pression atmosphérique, alors que dans l'autre cas, le sputtering, on a affaire à un procédé vraiment venu d'ailleurs. Et on va voir effectivement d'où vient ce procédé. Donc dans l'histoire, quand on reconstitue l'histoire des innovations dans ce domaine, on prend conscience du fait qu'il y avait vraiment eu un choc entre deux cultures, entre la culture d'une part des verriers traditionnels, ceux qui viennent des procédés verriers que Didier a présenté tout à l'heure, et puis ceux qui viennent avec une autre culture, des physiciens habitués à travailler sous vide, et ça a été un choc assez considérable dans les entreprises, une querelle des anciens et des modernes, et à la fin, c'est le sputtering qui a gagné pour ses principales raisons, le fait qu'il est capable qu'avec le sputtering, il est capable d'obtenir des empilements de couches de matériaux différents, et d'autre part que c'est un procédé plus flexible à partir du moment où on décide de construire deux types d'usines, une pour fabriquer le verre et l'autre pour fabriquer les couches. La pulvérisation cathodique, je ne vais probablement pas avoir le temps d'en faire toute l'histoire, ce n'était pas une technologie ou une technique récente. L'invention était ancienne, elle avait été d'abord observée, et puis en 1877, un professeur de physique de l'université d'Harvard avait déposé un premier brevet, mais il imaginait l'application de ce procédé pour réaliser des petits objets, des petits miroirs. C'est un procédé qui, avant d'être utilisé sur des grands verres, des grands vitrages architecturaux, était surtout utilisé en optique. Tous les objectifs d'appareils photo faisaient appel à des couches minces, déjà dans les années 40 ou 50, constituées de matériaux déposés sur la surface de ces optiques. Donc, pour résumer, l'innovation dans les vitrages à couches présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes. D'une part, un procédé de base qui préexistait depuis plusieurs décennies, qu'on a eu envie de faire des vitrages d'isolation thermique à partir de couches minces, on n'a pas eu à inventer de procédé, le procédé préexistait. Il y a eu évidemment un événement extérieur déclenchant, ce qu'ont été les chocs pétroliers des années 70, qui ont modifié les besoins du marché, qui ont changer la réglementation. Aujourd'hui, quand on construit, on est obligé d'utiliser ce type de vitrage. Ça a joué un rôle très important dans le développement de la technologie et pour lequel il a fallu transférer cette technologie de sputtering d'un secteur, celui des instruments d'optique, à un autre, le vitrage pour le bâtiment. Et donc, il a fallu apprendre à passer de petites surfaces de quelques centimètres carrés à des grandes surfaces de plusieurs mètres carrés. L'innovation a été incrémentale, c'est-à-dire que dans cette histoire, on ne relève pas de personnages marquants. En fait, toute innovation a été faite de façon très continue et de façon collective. Ce sont vraiment des métiers entiers qui se sont rassemblés et qui ont collaboré par des ingénieurs dans des compagnies verrières, en Belgique et en Allemagne pour commencer. Et surtout, et c'est une particularité de ce processus, chez les équipementiers, c'est-à-dire les gens qui construisent les installations, les gens qui construisent ces lignes comme celles que j'ai montrées tout à l'heure. On trouve des spécialistes du vide, Edwards, Erhaus, Lebold, Von Arden, et, chose intéressante, des nouveaux venus, c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient pas du tout le verre, qui connaissait un peu les techniques de dépôt par les procédés que j'ai présentés, qui sont donc apparus comme des nouveaux venus dans l'industrie, en achetant du verre à des verriers et en construisant les usines leur permettant de déposer ces vitrages à couches, dont certains se sont ensuite intégrés en amont et sont devenus des verriers. C'est le cas de Cardinal, par exemple. Donc on a eu affaire à un mouvement industriel assez intéressant. Ces couches que j'ai introduites en choisissant cette application qui est le vitrage optique, le vitrage d'isolation thermique, qui a effectivement joué un rôle moteur dans le développement de la technologie, eh bien une fois qu'on sait les faire, on peut y trouver beaucoup d'autres applications. Pour des couches conductrices transparentes, par exemple, on peut faire des écrans plats LCD. C'est comme ça qu'on fait les écrans plats, c'est comme ça qu'on fait les diodes électroluminescentes. Il faut bien un substrat transparent pour que la lumière s'échappe. C'est comme ça qu'on fait des cellules photovoltaïques. Il faut bien un vitrage transparent, un substrat transparent pour que la lumière pénètre dans la cellule. Et puis ces vitrages électrochromes que je crois Didier avait déjà présentés, qui fonctionnent également à base de couches minces. Ce sont des couches minces, des batteries, c'est très sophistiqué, ce sont des batteries électriques à état solide, donc multicouches, électrodes, électrolytes, électrodes, qui sont déposées sur le verre, dits vitrages auto-nettoyants, etc. Et je disais que dans cet exemple, comme dans le prochain, l'industrie verrière échappe aux verriers, et c'est effectivement ce qui se passe, c'est que dans l'industrie verrière, on peut dire qu'aujourd'hui, l'innovation et la concurrence se font sur les couches, sur des nouvelles couches, des nouvelles fonctionnalités apportées par ces couches minces, et non plus sur le verre. Je vais maintenant passer à mon deuxième sujet, complètement différent, je l'avais annoncé, qui sont les fibres optiques pour les télécommunications. Et là, on part... Évidemment, je crois qu'il n'est pas beaucoup nécessaire de faire état de la véritable révolution qu'ont été les télécommunications optiques, qui ont permis d'augmenter par des ordres de grandeur les capacités de transfert, de transport de l'information. On a ici une comparaison entre le premier câble téléphonique transatlantique, qui est un câble coaxial, c'est-à-dire un câble qui fonctionne à l'électricité, par le courant électrique, on pourrait dire, et qui permettait, en 1956, de transporter 36 conversations téléphoniques. Si on fait le calcul aujourd'hui, et à l'époque, ces signaux téléphoniques n'étaient pas numérisés, c'était encore analogique. Mais on peut calculer la quantité d'informations que cela représentait, et on arrive à un équivalent d'environ 2 mégabits par seconde. Ici, on a un câble optique qui date de 2014, et le taux de transfert d'information est de 60 terabits par seconde, c'est-à-dire 30 000 fois supérieur à celui du câble téléphonique. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut, au-delà des conversations téléphoniques, transférer sur ces câbles des signaux vidéo, de l'Internet, etc. Donc une véritable révolution qui est due en particulier à ces fins objets, les fibres optiques, et évidemment à beaucoup d'autres technologies qui se sont développées à sa suite. Qu'est-ce que l'on souhaite quand on veut transformer de l'information ? Eh bien, transformer de l'information, maintenant qu'elle est évidemment universellement numérisée, c'est transformer des 0 et des 1. Et pour ça, on utilise une porteuse, un signal continu, d'une certaine fréquence. Et si bien que quand le signal doit être 1, eh bien, cette fréquence passe. Quand le signal est 0, le signal ne passe pas, c'est le signal modulé. Et on prend conscience facilement du fait qu'il y a une limite à la fréquence de ce signal, et la fréquence du signal, c'est évidemment inversement proportionnel au taux de transfert sur la ligne, parce que ce temps élémentaire de signal ne peut pas être plus petit qu'une période de la porteuse. Donc plus la fréquence de la porteuse va être élevée, plus on va être capable de transférer des grandes quantités d'informations. Et le développement des télécommunications, du point de vue technique, eh bien, ça a été, de façon continue, le passage de technologies à courant continu, qui est le premier téléphone d'Edison, jusqu'aux technologies optiques d'aujourd'hui, en étant capable de maîtriser successivement le courant alternatif, les ondes radio, les micro-ondes, etc. Donc, le fait que cela se termine un jour par de l'optique était écrit d'avance. Alors, j'ai dit se termine par l'optique, peut-être est-ce que je ne suis pas assez prudent, peut-être est-ce qu'on pourrait aller un jour pour les rayons, jusqu'aux rayons X, mais aujourd'hui, on ne connaît absolument aucune technologie capable de transférer des rayons X sur des grandes distances. L'idée d'utiliser l'optique pour les télécommunications est loin d'être nouvelle. Bell, l'inventeur du téléphone, je crois que le téléphone est une invention des années 1860, eh bien, avait également inventé un photophone, c'est-à-dire un système qui fonctionnait à partir du rayon du soleil qui était focalisé sur un micro. Ce micro était en fait un miroir qui modulait donc en fonction du signal la lumière qui ensuite était reçue et tombait sur un détecteur en sélénium. Sélénium est photoconducteur. Et donc cela permettait de transformer ce courant en un courant électrique qui était ensuite amplifié et pouvait être détecté. Il semble que Bell ait fondé beaucoup d'espoir dans son photophone. Il pensait même que c'était une invention qui allait supplanter le téléphone. En fait, pour des raisons très pratiques, ça n'a pas été développé. La raison pratique la plus simple à comprendre étant les aléas dus à la météo, évidemment. Non, pour transporter sur des longues distances de la lumière, il faut la guider optiquement. Et le principe du guidage optique est extrêmement simple. Il repose sur le principe de la réflexion interne totale qui était connu depuis longtemps, qui consiste en ce fait que si on considère deux milieux transparents, un d'indice optique faible comme l'air, par exemple, l'autre d'indice optique plus élevé comme le verre, eh bien, si on a un faisceau incident qui vient de l'intérieur du verre, au-delà d'un certain angle critique ici, il sera totalement réfléchi à 100%. Et donc, si on est capable de constituer un guide, une fibre, par exemple, de ce matériau, en faisant entrer un signal à une extrémité, eh bien, par une succession de réflexions totales sur les parois, il ressortira à l'autre extrémité. Donc, un principe vraiment très simple, qui avait été mis en œuvre, mis en évidence en premier par un professeur de l'Université de Genève, Jean-Daniel Colladon, dans l'eau. Il avait construit une petite installation dans laquelle un jet d'eau, dans un filet d'eau ici, de la lumière était injectée et se retrouvait à l'autre extrémité du jet, ce qui servait, ça a été la première application, à fabriquer des fontaines lumineuses. Mais l'application technologique la plus importante, sur laquelle beaucoup de chercheurs, d'opticiens, en collaborant avec des médecins, ont travaillé, c'était l'endoscopie. Comment amener de la lumière et comment recevoir de la lumière, par exemple, de l'estomac. Vous voyez ici ces premiers endoscopes qui ne devaient certainement pas être confortables à installer ni à subir. La vraie première amélioration et la vraie première innovation dans le domaine, ça a été l'invention de la gaine. Alors pourquoi de la gaine ? La gaine, ça veut dire qu'on a non seulement une fibre, en l'occurrence une fibre de verre, mais cette fibre est elle-même revêtue d'une gaine. Et ça, c'est pour éviter les déperditions, parce que j'ai expliqué que cette réflexion, elle est totale, mais si un autre matériau vient en contact avec cette fibre, quelque part, eh bien là, par contre, la lumière va s'échapper. Pour éviter ça, O'Brien, qui était, je crois, le président de la société américaine d'optique, a conçu la notion de gaine en alliant deux matériaux, un matériau cœur d'indice élevé et un matériau gaine d'indice plus faible, de façon à ce que la réflexion ne se fasse pas à la surface extérieure de la fibre, mais à l'interface entre le cœur et la gaine. Ça a été la première vraie innovation dans le domaine des endoscopes. Et puis, la deuxième innovation, elle est due à un étudiant de l'Université du Michigan, Lawrence Curtis, qui a imaginé le procédé de fabrication d'une fibre cœur-gaine. Et pour ça, il a pris une tige d'un verre d'indice N2 dans un tube de verre d'indice N1. En chauffant, il a soudé les deux objets, et il a obtenu ce qu'il a appelé une préforme et que l'on continue aujourd'hui à appeler une préforme. Et une fois qu'on a cette préforme, eh bien, il suffit, en faisant passer la préforme dans un four, donc de ramollir le matériau, de tirer sur l'autre extrémité, et on obtient comme ça la fibre. Donc ces deux inventions, le concept de Kerrgen et le procédé de fibrage, ont été absolument déterminants, mais ce n'est pas la seule chose. On assiste, comme c'est souvent le cas dans le domaine de l'innovation, à une convergence en fait, entre nulle part ces premières fibres optiques qui commençaient à être utilisées pour l'endoscopie, qui étaient utilisées également dans le domaine automobile, et l'invention du laser qui a été déterminante. Parce que le laser, c'est une lumière facilement utilisable. C'est une lumière sous forme de faisceau fin qu'on va pouvoir évidemment très facilement faire entrer dans une fibre. Ensuite, il y a eu les diodes électroluminescentes état solide, mais c'est l'invention du laser en 1960 qui a vraiment conduit à l'innovation, c'est-à-dire à cette idée d'utiliser les fibres optiques dans les télécommunications. Et idée qui a été formulée en premier par Charles Kao, d'origine chinoise, mais qui travaillait en Angleterre au Standard Telecommunications Laboratory, une filiale d'un groupe de télécommunications américain qui s'appelle. Je parle au passé parce que ce groupe continue à exister, mais il ne travaille plus du tout dans le domaine des télécommunications, qui s'appelait ITT. Et on va trouver dans la suite deux acteurs industriels qui sont cette ITT et la grande société American Telephone and Telegraph, AT&T, qui s'était partagé le monde en fonction des décisions d'une loi antitrust. AT&T était présent surtout de façon opérationnelle aux États-Unis et ITT dans le reste du monde. Donc Charles Kao a vraiment été celui qui a proposé et dont l'histoire a gardé le nom comme étant celui qui a proposé l'utilisation des fibres optiques dans les télécommunications, et il a reçu son prix Nobel pour cette innovation-là, on peut parler d'innovation, en 2009. On est donc dans un cas où l'innovation précède finalement la réalisation. Kao, il n'a pratiquement, je vais revenir un tout petit peu là-dessus, mais il n'a pratiquement rien fait d'autre que d'ouvrir la voie, que de dire, imaginez maintenant, à partir de cette idée, utiliser des fibres optiques dans les télécommunications, comment faire ? Et le marché sera au rendez-vous. Alors en fait, Kao, il a eu deux... Il y a deux raisons principales qui expliquent le succès de Kao, la réussite de Kao. La première, c'est que beaucoup de gens à l'époque, beaucoup d'autres industriels, et en particulier AT&T, dans les laboratoires de Bell Labs, travaillaient sur une technologie complètement différente qui était les micro-ondes. Les micro-ondes, c'est ce qui est utilisé dans les fours de cuisine. Ce sont des rayonnements avec des fréquences un peu inférieures à celles, enfin quelques ordres de grandeur inférieures à celles de la lumière, mais qui déjà aurait permis, si elle s'était développée, de supplanter les ondes radio. Simplement, pour transporter un signal micro-ondes, il faut imaginer finalement un four micro-ondes cylindrique qui ferait 10, 100, 1000 km de long. Donc un objet vraiment extrêmement complexe, très difficile à fabriquer, très coûteux à fabriquer, avec des problèmes en particulier de soudure entre des éléments de ces tubes micro-ondes, avec un état de surface intérieure qui doit être impeccable de façon à réfléchir les micro-ondes. Et on voit sur cette figure qui compare un des prototypes de cette installation qui a été pendant un certain moment fonctionnelle du côté de Boston. On voit au premier coup d'œil la différence de complexité et on imagine la différence de coût qu'il y a entre la fabrication d'un tuyau à micro-ondes et puis celle d'une simple fibre optique. Donc, Kao a finalement en partie bénéficié du fait que les concurrents potentiels étaient occupés à autre chose. Il faut, pour être juste d'ailleurs, mentionner que cette idée était celle du patron de Kao chez STL, qui avait recruté Kao pour qu'il travaille sur des solutions optiques. Et puis, le principal mérite de Kao, je pense, ça a été qu'il est sorti de son domaine. Son domaine, c'était celui des télécommunications, donc l'électronique, l'optique, et il n'a pas hésité à franchir le pas vers les matériaux. Quels matériaux utiliser pour transmettre la lumière sur des longueurs qui doivent être de 10 km ou 100 km. On a sur les câbles transatlantiques des répétiteurs, donc des stations qui réamplifient, qui détectent et qui réamplifient, mais on ne peut pas en avoir plus que tous les 30 ou 100 km environ. Et la situation en 1966, au moment donc où KO est apparu sur la scène, c'était que les meilleurs verres, on n'en faisait pas nécessairement des fibres, possédaient une atténuation de moins de 100 décibels par kilomètre. Donc le décibel, c'est l'unité d'atténuation d'une fibre. C'est une unité logarithmique, donc vous voyez que dans ce tableau, les chiffres varient énormément parce que l'atténuation est logarithmique. Et on voit qu'en 1966, les meilleurs verres connus ne permettaient de transporter la lumière que sur des longueurs de quelques mètres environ. À un kilomètre, on perdait déjà, on n'avait plus que 10 puissance moins 10 du signal qui persistait. Et la vision de KO, ça a été de dire oui, mais si on était capable de concevoir des matériaux dont l'atténuation serait de moins 20 décibels par kilomètre, eh bien, au bout d'un kilomètre, on aurait encore 10% du signal. Au bout de 10 kilomètres, on aurait peut-être encore 1% du signal. Donc, on pourrait le détecter, le réamplifier dans ces répétiteurs. Donc, voici quelle a été la vision de KO en 1966. Et j'en profite sur ce tableau pour vous montrer le record actuel. On est aujourd'hui à moins 0,146 décibels par kilomètre, ça veut dire qu'au-delà de 100 km, il reste encore 18,6% du signal. Donc des progrès absolument considérables. Donc je disais, le grand mérite de KO, ça a été de ne pas s'arrêter à ça. Il a certains de ses concurrents possibles, certains de ses concurrents potentiels qui avaient aussi cette idée de fibre optique, qui sont allés interviewer les spécialistes des matériaux spécialisés dans le verre, à qui ils ont posé la question « Quel est le meilleur matériau aujourd'hui existant ?» La réponse était moins 2 décibels par kilomètre, et ils se sont dit « Il n'y a rien à faire ». KO a lancé un message, une espèce de bouteille à la mer, finalement, à la communauté scientifique, et en particulier à celle des matériaux, en disant « Si vous êtes capable d'améliorer le matériau, eh bien, cette nouvelle application du verre sera au rendez-vous. » Alors, je ne sais pas, je vais passer que rapidement là-dessus, simplement pour signaler le fait que cette raison pour l'atténuation finalement assez importante du verre, cette atténuation du verre normal, c'est elle qui cause la couleur verte du verre qu'on observe quand on regarde un vitrage sur la tranche. Et elle est due à des ions fer 2+. Les ions fer 2+, on en trouve partout dans la nature. Le fer est l'élément le plus abondant. Donc dans le sable, dans la chaux, dans la soude, il y a un peu de fer. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1 pour 1000, quelques centaines de ppm, mais c'est déjà beaucoup, et ça provoque des atténuations de l'ordre des 200 ou 300 décibels par kilomètre. C'est décibels par kilomètre, ici, excusez-moi, qu'on connaissait à l'époque. Et KO s'est convaincu du fait que si on était capable de faire descendre la concentration en fer à 1 ppm, c'est-à-dire une partie par million, eh bien, à ce moment-là, on aurait une atténuation de l'ordre de 10 ou 20 décibels, ce qui a été son premier objectif, sa première cible. Il est intéressant de lire ces messages dans un article scientifique que KO a émis. Il est prévisible que des verres qui auraient une perte, une atténuation d'environ 20 décibels par kilomètre à environ 0,6 microns pourront être obtenu si la concentration en ions fer diminue jusqu'à une part par million. Et à ce moment-là, les études théoriques et expérimentales indiquent qu'une fibre constituée de ce matériau dans une structure avec une gaine et un cœur représente un guide d'onde possible, pratique et possible, avec un potentiel important dans les télécommunications. Et on peut dire que c'est cette phrase qui a valu à KO son prix Nobel 35 ans plus tard. Ce qui est, je crois, un exemple unique parce qu'il n'y a pas de découverte, il n'y a pas d'invention, il y a juste une innovation qui est mettre à marché celui des télécommunications en face d'un matériau. Alors, j'exagère un tout petit peu en disant ça, parce que cet article, ce premier article de 1966 n'a pas convaincu tout le monde. Et donc, Kao a confirmé son intuition. Il s'est un peu transformé en opticien des matériaux. Il a dû pour ça construire une expérience de métrologie optique spécifique. Et il a ramassé des échantillons à travers le monde de matériaux transparents, de verre, de silice pur. Et il est tombé sur un échantillon de silice pur fabriqué par Schott, qui possédait une atténuation de 4,3 décibels par kilomètre. Alors, ce n'était pas une fibre encore, c'était un échantillon massif, mais cette expérience a achevé de convaincre les sceptiques et a montré qu'il n'y avait pas de fatalité à ce qu'un matériau verrier, vitreux, ait une atténuation de 200 décibels par kilomètre. Ce matériau, c'est en fait une silice pure, obtenu par fusion à partir du quartz naturel. Vous avez remarqué que le quartz naturel n'a pas du tout cette couleur verte. Il est presque idéalement transparent. C'est parce qu'il possède extrêmement peu d'impuretés fer. Mais le plus difficile restait à faire, fabriquer en continu une fibre Gancker. Et c'est là où intervient le deuxième personnage marquant de cette histoire. Alors, je l'ai annoncé, hein, le verre, l'industrie verrière, en tout cas pour cette application-là également, échappe aux verriers. Les verriers ont tenté des choses, les verriers traditionnels, en particulier des techniques de fusion à deux creusets avec un verre d'indice élevé à l'extérieur, à l'intérieur et un verre d'indice faible à l'extérieur, en poussant à leur dernière extrémité toutes les techniques de purification des matériaux, mais purifier un solide, c'est pas facile, ça a ses limites. Finalement, les Bell Labs ont obtenu plus tard, dans les années, vers la fin des années 70, 5 décibels par kilomètre à 0,9 microns, mais ça n'a pas été suffisant. Il a fallu changer vraiment de registre technologique. Et c'est là où une nouvelle façon de fabriquer du verre de silice s'impose. Vous reconnaissez cette figure, c'est celle que j'ai présentée tout à l'heure pour le dépôt de couches minces par voie chimique, par chemical vapor deposition, par dépôt chimique en phase vapeur. Eh bien, ce procédé, on l'a compris, il est capable de déposer un solide à partir de gaz. Par exemple, si on veut déposer de la silice, eh bien, au lieu d'utiliser le SnCl4, le chlorure d'étain dont j'ai parlé tout à l'heure, on utilise du SiCl4 et ça marche très bien aussi. Donc, on est capable, par CVD, de déposer de la silice sous forme solide. Il se trouve que Corning, déjà mentionné par Didier, qui est probablement une des entreprises dans le domaine des matériaux la plus innovante, avait sous le coude un procédé de fabrication de silice amorphe, de silice solide par CVD, grâce à un certain James Hyde, qui avait déposé ce brevet en 1934. C'était un chimiste organicien, et c'est naturel. Ça ne pouvait pas être un membre... ça ne pouvait pas être un chercheur typique de chez Corning qui était pour la plupart spécialisé en chimie inorganique pour faire des verres à partir de matières premières solides. Là, il fallait vraiment raisonner en dehors de la boîte et c'est ce que Hyde, avec sa culture de chimiste organicien, a réussi à faire et c'est tout le mérite de Corning d'avoir déjà à cette époque su que pour innover, eh bien, il fallait rassembler des compétences complémentaires. Et la CVD présente dans le contexte deux avantages majeurs. Premièrement, c'est un procédé en phase gazeuse, et du coup, la purification est facilitée. Par exemple, des molécules de chlorure de fer ont 10 puissance 15 fois moins de chances de s'évaporer que des molécules de chlorure de silicium. Donc, le gaz précurseur, il peut être rendu extrêmement pur. Et puis, deuxièmement, on peut facilement doper la silice par du germanium, du titane, du bore. Il suffit pour ça d'ajouter dans le gaz de départ, SiCl4, eh bien un peu de chlorure de germanium, un peu de chlorure de titane, un peu de chlorure de bore, et ça suffit à modifier l'indice optique. On va donc être capable, en jouant sur l'alimentation en gaz dans ce processus, de déposer sur un mandrin sacrificiel, qui peut être une tige de verre, une tige de silice, peu importe, eh bien d'abord en utilisant comme précurseur de la silice pure une couche de silice. Donc ce qui est représenté ici, c'est une pièce à symétrie cylindrique. Et puis, dans un deuxième temps, donc une couche de silice de péotitane d'indice élevé, et dans un deuxième temps, une couche de silice d'indice plus faible. Et on a réalisé de cette façon-là, en éliminant ensuite le mandrin du milieu, par exemple mécaniquement ou chimiquement, peu importe, on a fabriqué la préforme de silice avec les deux indices, l'indice élevé à l'intérieur, l'indice plus faible à l'extérieur, qu'il faut pour ensuite, par ce procédé de fibrage inventé par Curtis, tirer une fibre optique Ganker en silice ultra pur et qui donc va présenter les bonnes propriétés d'atténuation. Donc c'est là qu'intervient le deuxième personnage marquant de cette histoire, c'est Robert Maurer, chef d'équipe de recherche de Corning, qui en 70 a été capable de fabriquer avec son équipe et de mesurer les premières atténuations dans une fibre grandeur nature, cette fois-ci, de 20 décibels par kilomètre. Et l'article dans lequel il a publié ça est un article extrêmement surprenant, parce que nulle part dans cet article, il ne dit de quel objet il parle. Il dit quelques centaines de mètres d'un guide d'onde optique a été réalisé et on a mesuré dessus une atténuation de 20 décibels par kilomètre. Je ne sais pas si un article comme ça serait publié encore aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune indication sur la nature du matériau, la façon dont il a été fabriqué, etc. Et pourquoi ça ? Eh bien parce que, évidemment, pendant ce temps-là, il était également occupé à rédiger des brevets. Corning a rempli plus de 200 brevets sur les fibres optiques à base de silice, sur la base de cette invention première de Maurer. Ces 200 brevets ont ensuite eu des histoires compliquées. D'abord, il faut savoir que Corning et Bell Labs, donc AT&T, avaient des conventions d'échange et d'exploitation mutuelle des brevets, donc ça a facilité le travail ensuite d'AT&T. Il y a eu une guerre des brevets entre Corning et ITT, dont je parlais tout à l'heure, là d'où KO était originaire, parce que ITT, à une certaine époque, a exploité, semble-t-il, les technologies sans en avoir le droit. Mais le résultat, c'est que Corning est resté le grand industriel des fibres optiques et ça représente aujourd'hui une partie très significative encore de son chiffre d'affaires. Donc à partir de cette première fibre de 70, eh bien les choses sont allées très vite. L'année d'après, photo finalement rend justice au rôle des Anglais qui ont été initiateurs grâce à KO et qui ensuite ont été très moteurs. Ils sont allés très vite dans la volonté, grâce en particulier à la BPO, British Post Office, de développer cette technologie, avec cette première démonstration d'un signal transporté par fibre optique en 1971. Et en 1975, Corning vendait déjà son premier câble optique, qui avait une atténuation de 20 décibels par kilomètre, qui coûtait $13,5 du mètre, donc c'était encore un objet de luxe. Mais ensuite, les technologies se sont développées, les prix ont considérablement baissé et on est arrivé à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.